Je vous invite à chercher le livre de Juges, Juges chapitre 7 et 8. Je vais vous lire quelques extraits et on reviendra sur les textes qui n'ont pas été lus par la suite. Juges chapitre 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On reprend verset 16. Gédéon divisa en trois corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Teressa, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Et on va reprendre maintenant à la fin du chapitre 8, après la victoire, chapitre 8, verset 22. Alors les hommes dirent à Gédéon, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, et c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus comme butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1 706 cycles d'or, sans les croissants, les pendants dorés et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphode et il le plaça dans sa ville, à Orpha, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, le fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui car il eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Nous étudions ce livre des juges, ce temps en Israël où le peuple a été dirigé à défaut d'un roi et à défaut de Dieu lui-même, le peuple a été dirigé par ses chefs militaires, qu'on appelle des juges, mais souvent des chefs militaires. Et on découvre, en parcourant ce livre, que chaque juge avait ses défauts. Et plus on avance dans le livre, plus les défauts deviennent conséquents et problématiques. Alors oui, Gédéon, nous avons fait connaissance avec Gédéon, chapitre 6, la dernière fois. Gédéon, cet homme hésitant, pas sûr de lui, rempli de doutes. Cet homme qui a constamment besoin de confirmation et de signes de la part de Dieu. Ce sont des qualités chez un dirigeant qui peuvent être handicapantes. Pas sûr de soi, hésitant, rempli de doutes, se croyant le plus petit, le plus faible. Mais en réalité, comme nous allons voir ce matin, c'était sa force. Et tant qu'il est dans cette attitude, Gédéon était un vaillant héros de la foi. Mais l'instant qu'il remporte la victoire, le vrai défaut de Gédéon apparaît. Nous allons retenir la leçon pour nos propres vies ce matin, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies, pour que nous saisissions son salut, sa délivrance. Nous allons voir ce matin justement la force de la faiblesse, mais aussi les dangers de la réussite. Mon dernier garçon, de retour de chez grands-parents, il nous a annoncé qu'il connaît deux mots en anglais. Good et bad. Bon, défaut d'éducation chez ses parents, parce qu'il devrait connaître plus que good et bad, mais au moins il sait ça. Et ce sera le plan ce matin. Quand Gédéon est faible, chapitre 6 et 7, Dieu est glorifié, c'est good. Mais chapitre 8, Gédéon est fort, vainqueur, mais Dieu est oublié. Et là, c'est bad. Voyons cela dans ces chapitres. Tout d'abord, Gédéon faible, Dieu glorifié. Toute la leçon de ces deux chapitres ensemble se trouve dans la verset 2. C'est le projet de Dieu. Du chapitre 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. » Dans une autre traduction, « Il se vanterait d'avoir vaincu par leur propre force et il s'attribuerait ainsi une gloire qui me revient. » Finalement, toute la Bible est écrite pour que nous n'arrivions pas à cette conclusion. « C'est ma main qui m'a délivré. » Et pourtant, le cœur humain voudrait tellement se vanter, se délivrer soi-même. Vous savez, être autour de quelqu'un qui est vantard, qui se vante, ce n'est pas agréable. On le discerne assez facilement chez l'autre, même si c'est aussi assez facile chez soi de se vanter. Déjà, se vanter, ce n'est pas bien, mais de se vanter des choses qu'on n'a pas fait, c'est encore pire. Vous connaissez la faute du plagiat, je pense. Le plagiat, c'est le vol et la vantardise combinés. Le plagiat s'attribue la gloire à une autre, en faisant passer comme quoi c'est moi qui ai fait ça. Et c'est ça un peu le problème de l'humanité. L'humanité plagie Dieu en permanence. Tout ce qui marche bien, on aime bien se créditer, on aime bien s'en vanter. Tout ce qui ne marche pas, on aime bien blâmer Dieu. Alors que c'est plutôt le contraire. Hein? Tout ce qui marche bien, on devrait donner gloire à Dieu. Et tout ce qui ne marche pas bien, on devrait s'interroger et se blâmer. Mais l'humanité fait le contraire. Bon, c'est du plagiat, parce que finalement, tout bien, toute délivrance, tout salut, toute vie, c'est Dieu qui en est la source. Alors si on essaie de s'attribuer cette gloire en se disant « c'est ma main qui fait ça eh », ben c'est du vol, c'est du plagiat. Pourquoi on sanctionne le plagiat encore en France? Ben non seulement ce n'est pas juste envers l'auteur, mais ce n'est pas bon pour la personne. C'est une mauvaise préparation à l'avenir, c'est une mauvaise préparation à la vie, ce n'est pas bien de plagier. Si on se vante d'un talent qu'on n'a pas, si on se vante d'un travail qu'on n'a pas fait, Oui, c'est profitable pour un temps. Ça nous gagne quelques honneurs pour un temps. Mais un jour, on va se trouver embêté parce qu'on n'a pas ce talent et qu'on a besoin peut-être, ou qu'on n'a pas fait ce travail. Et c'est comme dans le film Ratatouille. C'est l'histoire d'une souris qui sait bien cuisiner et se cache dans le toque d'un chef. Et le garçon, lui, du coup, tout le monde pense que lui sait bien cuisiner, mais en fait, c'est la souris. Mais à un moment, il est embêté parce que la gloire lui revient un peu et puis la souris n'est plus là et il ne sait plus cuisiner. Et là, il est obligé d'avouer que ce n'est pas lui et qu'il doit donner la gloire à l'auteur. Ça, c'est une histoire d'enfant, mais... C'est ça le problème. Lorsqu'on dit c'est ma main qui sait cuisiner, ou c'est ma main qui me délivre, ou c'est ma main qui me sauve, déjà ça vole la gloire à Dieu, parce que c'est, en fait c'est lui derrière tout ça qui le fait. Et puis l'autre problème, c'est ce que nous ne savons pas faire en vérité, ça ne marche pas. On ne sait pas délivrer, on ne sait pas sauver. Et à l'instant, à l'heure où on a vraiment besoin de délivrance, comme à l'heure de la mort par exemple, là on va se trouver embêté si toute notre vie, on a essayé de voler la gloire à Dieu ou de se croire capable de nous délivrer, de nous sauver. Ça, c'est la leçon de toute cette leçon pour Gédéon, pour Israël. Vous devez apprendre à me donner la gloire pour la victoire parce que vous aurez besoin de moi, vous aurez besoin de mes forces, vous aurez besoin de ma délivrance. C'est ce dont vous êtes incapable de faire vous-même. Donc, l'Éternel dit à Gédéon, je ne veux pas que vous tirez gloire contre moi, c'est ça le problème. Il pourrait en tirer gloire contre moi et penser que c'est ma main qui me délivre. Donc, on va faire en sorte que personne puisse croire que c'est vous, et on va faire en sorte que la gloire me revienne. Donc, pour cela, il demande à Gédéon de réduire la taille de son armée de manière drastique. Vous connaissez peut-être cette histoire. Alors que déjà, l'armée d'Israël, c'est 32 000 contre l'armée de Madian, c'est 135 000. Donc 32 000 contre 135 000, c'est déjà, on va avoir besoin de Dieu. Mais Dieu veut enlever le moindre doute, la moindre raison de s'en vanter, comme il veut enlever le moindre doute que vous avez contribué à votre salut. Donc ici, la réduction de l'armée se fait en deux étapes. Première étape relève d'une certaine logique. Il dit, bon, renvoyez ceux qui ont peur. Comme ça, ceux qui sont craintifs, verset 3, et qui ont peur s'en retournent et s'éloignent. Donc c'est vrai, c'est une certaine stratégie sage militaire, la peur, comme le courage, est contagieux. Donc il y a une sagesse d'écarter ceux qui tremblent de peur quand on avance dans une bataille. Et des fois le principe s'applique. Hein. Dans nos vies, parfois il est préférable d'avancer avec un petit nombre et qui sont remplis de foi et de courage que d'essayer d'obliger ou d'accommoder tout le monde et voir les plaintes s'installer, la peur s'installer. Donc étonnement, 70% de l'armée rentre chez eux. C'est assez flagrant. 70% se retrouvent tremblants de crainte. On rentre. Il reste 10 000 maintenant. 10 000, c'est toujours trop nombreux pour cette leçon. Le peuple pourrait en tirer gloire contre moi et penser que c'est ma main qui me délivre. Donc il va encore renvoyer cette fois-ci 97% de l'armée. Sauf ici, le critère de tri, le triage, se fait de manière pas forcément logique ou stratégique. C'est juste cette façon de boire, hein, ceux qui lapent et ceux qui se penchent pour boire. Il est tentant de dire que ceux qui ont bu à la main sont peut-être plus vigilants, plus en alerte, sont de meilleurs soldats, mais le texte ne le dit pas. C'est un critère que Dieu lui-même a mis en place. Et on se rappelle que le but de tout ce chapitre, c'est d'empêcher à Israël de se vanter ou de se tirer gloire ou de se croire meilleur que l'autre. Donc, presque ici, le critère est totalement arbitraire pour que Dieu encore réduise l'armée de manière à ce que personne puisse dire « Ah là, c'est leur main qui les a délivrés ». Donc ça y est, quand on arrive à la fin du tri, là, en versets 6 et 7, on arrive à 300 hommes. Donc 300, c'est moins de 1% de l'armée d'origine. Israël doit faire face maintenant à une armée qui est 450 fois plus grande que son armée. Si ça vous encourage, on dit que le nombre de chrétiens évangéliques en France est moins de 1%. Donc on est à peu près dans les mêmes statistiques chrétiens évangéliques face à l'incrédulité. Donc là, on comprend que Gédéon, on l'a retrouvé déjà hésitant, craintif, pas sûr de lui, en chapitre 6, en cachette. Maintenant, on dit, oh, tu vas délivrer Madian, tu prends l'armée, mais maintenant ton armée, c'est 300. Et tu vas contre une armée de 135 000 hommes. Alors, on comprend qu'il peut être dans la crainte. Donc, Dieu lui donne encore une dernière confirmation, une signe, c'est ce que nous n'avons pas lu, mais en verset 9, et il dit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées, descends donc au camp. » Gédéon descendit avec Pura son serviteur. Donc, si tu crains, prends ton serviteur et descends, je vais te faire encore un signe. Alors, le texte dit qu'il a pris son serviteur. Donc, Gédéon craint. On est d'accord, il craint. Heureusement, il ne faisait pas partie de ceux qui ont été renvoyés au premier tri. Hein. Ça aurait été le comble. Donc, il descend dans ce camp et là, Dieu lui fait encore un signe, une révélation miraculeuse. En fait, il entend deux soldats madianites qui parlent, il faut le dire. Un dit, j'ai eu un rêve et dans ce rêve, j'ai vu une crêpe se retourner et tout ça. Et l'autre, son copain, lui donne l'explication en disant, ah oui, ça fait référence à la manière que Gédéon va renverser le camp et gagner. Gédéon entend deux soldats parler comme ça d'un rêve, d'une explication, là, c'est assez fort. Donc il revient avec déjà tous les signes que Dieu lui a donnés, les toisons, la promesse, et maintenant cette conversation entre deux soldats madianites, et là il est convaincu. Verset 15, Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Donc, il adore Dieu, vraiment. Il revient au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Donc là, il est dans la force que donne la foi en Dieu. Et là, on a lu, c'est beau, cette victoire. Hein. Gédéon conduit sa petite armée de 300 dans une victoire incroyable, une victoire accomplie par Dieu. Chaque fois qu'on dit « C'est Dieu qui livre l'armée entre tes mains. » Bien sûr, Gédéon n'est pas passif, hein. C'est pas qu'il ne fait rien. Il devient ce vaillant héros auquel Dieu l'a appelé à faire. Et il agit avec une sagesse, une stratégie. Donc, nous avons vu ça selon verset 19. Donc, il réfléchit et il va faire son action au milieu, au commencement de la veille du milieu. Donc, au moment où on change de garde, puisque c'est un camp de nuit, il y a des gardes, donc on change les sentinelles, on change les gardes, tous les veilles de la nuit. Et donc, il va faire son action au moment du changement de la garde. Et puis, avec ces outils-là, c'est pas l'épée, mais c'est des trompettes, des cruches et des lanternes. Donc, il faut un peu se mettre. Donc, il place toute son armée et il encercle le camp des Madianites. Et puis, il dit, donc au milieu de la nuit, c'est déjà un moment un peu où on s'attend le moins, au milieu de la nuit. Et donc, il sonne la trompette et il brise les cruches et les lanternes brillent. Donc, il faut un peu s'imaginer 300 personnes qui sonnent la trompette. Et là, ce n'est pas comme notre frère Pierre, hein. Ce n'est pas du Brahms et du Handel ou des jazz, du smooth jazz, non. C'est comme si je vous donnais chacun une trompette et chacun y mettait toute sa force. Là. Le bruit sera peut-être plus effrayant qu'un concert agréable. Et puis, ces éclats de lumière dans la nuit, donc ils doivent penser que le ciel leur tombe sur la tête. Et ceux qui dorment, ils se réveillent et ils voient plein de soldats marcher dans le camp. Parce que c'est le changement de garde, en fait, c'est leur propre compagnon d'armes. Mais dans la nuit, on ne voit rien et puis c'est la panique. Donc, ils pensent qu'ils se font attaquer. Donc, ils se battent entre eux et c'est là toute la victoire. Hein. J'ai dit, on n'a besoin de rien faire. Eux-mêmes se battent et s'entretuent et le camp est dans tout le panique et tout le monde fuit et voilà. Et c'est fort, mais le cri, il dit dans la main, dans une main, ils avaient le cruche, dans l'autre main, ils avaient la trompette. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'épée, les soldats, ils n'ont pas la place pour l'épée. Donc, ils doivent crier épée pour l'Éternel, mais c'est leur cri, c'est un peu leur cri de foi en disant la victoire est à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va gérer l'épée et nous allons juste gérer une trompette, une cruche, mais c'est normalement, le soldat ne fait pas ça, mais c'est une manière de Dieu, c'est la force revient à Dieu. Ce que nous faisons, c'est premièrement pour Dieu et c'est par Dieu, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et vous avez vu l'essentiel de la victoire en chapitre 7 se fait sans épée, juste avec une cruche, une lanterne et une trompette. Et le Nouveau Testament va commenter ce moment dans la vie de Gédéon, dans la vie d'Israël, en disant c'est vraiment par la foi qu'ils ont fait ça. Ils ont cru en Dieu, ils ont adoré Dieu et ils ont crié à lui, ils ont prié Dieu. Tout ça, c'est des gestes de foi. Et Hébreux 11 dit c'est par la foi que des faibles furent rendus vigoureux, qui devinrent forts dans la bataille et qui firent ployer les armées des étrangers. Donc on pense qu'il parle vraiment de cette scène-là. Là. Et les faibles furent rendus vigoureux, ça c'est Gédéon. Ils devinrent forts dans la bataille, ça c'est Gédéon et son armée. Et ils firent ployer les armées des étrangers, c'est-à-dire ils ont fait ployer l'armée de Madianites, qui était pourtant beaucoup plus nombreux. Donc vous voyez, on découvre un peu ce matin la force de la faiblesse. Quand on est, c'est à ce moment qu'on se tourne vers Dieu dans la foi. Je dirais c'est ce principe, la force de la faiblesse qui a sauvé Gédéon, mais c'est aussi ce principe qui nous fait rencontrer Dieu, qui nous fait devenir chrétien. Si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est la force de la faiblesse qui va vous conduire à Dieu. Ce que Gédéon a vécu, c'est ce que nous devons vivre tous pour devenir chrétien. On arrive à ce constat, oui, je n'ai pas la force morale, je n'ai pas la force spirituelle, pour vaincre mes ennemis, pour vaincre mon péché. Donc, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Dieu. Ou on dit, j'arrête de faire du plagiat et me faire passer pour Dieu. Devenir chrétien, c'est dire, j'arrête de me vanter de mes efforts, de mes dons, de mon parcours spirituel. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il aimait bien ce mot se vanter, il aimait bien en parler, mais chaque fois il dit non, je ne me vante pas de moi, je ne vanterai pas de mes dons, de mes talents, de mon arrière-plan juif, je ne vante pas moi, mais je me vante en Dieu, je me vante de la croix. Et la croix est pourtant une honte, la croix est une faiblesse, mais il dit mais je me vante de la croix, c'est mon seul salut. Donc devenir chrétien, c'est reconnaître ce principe. La force de la faiblesse morale et spirituelle qui est dans notre cœur. Et c'est ça qui nous amène à Dieu et vivre le salut par la foi. C'est ce principe qui nous fait devenir chrétiens, c'est ce principe qui nous fait marcher en tant que chrétiens jour après jour. Lorsque nous sommes dans la souffrance, par exemple, c'est là où nous reconnaissons la force de la faiblesse parce que Dieu agit en nous. L'apôtre Paul le dit clairement. Ces versets-ci inspirent tout ce message en 2 Corinthiens chapitre 12. Il vit quelque chose de difficile dans son corps, semble-t-il. 2 Corinthiens 12, 8, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, je me vanterai, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. C'est fou, je me vante de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. C'est ce principe qui nous fait devenir chrétiens, c'est ce principe qui nous fait marcher en tant que chrétiens. Quand on passe par les moments de souffrance, d'épreuves, de maladies, c'est là où on goûte certainement davantage plus la puissance et la présence de Dieu. Et en cela, la faiblesse est une force. Je pense aussi au service chrétien, non seulement la souffrance chrétienne, mais le service chrétien. On vous appelle à servir dans l'Église, et des fois vous vous sentez incapable, vous vous sentez faible. Et bien, comme Gédéon, c'est là où on est presque dans notre meilleure forme spirituelle, c'est quand on est conscient de cette faiblesse, Et donc on se tourne vers Dieu, on prie, on compte sur lui et il agit. Donc oui, la force de la faiblesse. Alors bien sûr, tout ça, vous connaissez déjà en fait. La force de la faiblesse. La question ce matin surtout, c'est avec quelle rapidité allons-nous l'oublier? Parce qu'il y a maintenant le chapitre 8. Pour Gédéon, la leçon est vite oubliée. Et le chapitre 8, tout le chapitre 8 se déroule sur un autre ton. Et là, ça va être plutôt bad. Maintenant, Gédéon, fort de sa victoire, les choses se gâtent. Et ici, nous découvrons les dangers de la réussite. Bien sûr, la réussite, ce n'est pas un péché. La réussite, ce n'est pas mauvais en soi. Si on peut glorifier Dieu pour nos réussites, tout va bien. On peut glorifier Dieu dans nos faiblesses, on peut glorifier Dieu pour nos dons et pour nos capacités, nos victoires. Mais souvent, c'est plus facile à se tourner vers Dieu dans la faiblesse que de se tourner vers Dieu après la victoire. Et Gédéon va nous montrer ça. Parce que ce chapitre, j'ai lu la fin, ça termine mal, mais tout au long de la chapitre, c'est pas la même joie qu'en chapitre 7. Nous découvrons les dangers de la réussite. Donc Gédéon et le peuple remportent une grande victoire. Mais après, il faut mener à terme cette victoire. Et donc, ils vont poursuivre encore les Madianites quelque temps, les quelques-uns qui restent. Mais cette victoire va créer quatre choses à travers ce chapitre. On va pas tout lire, mais la victoire va créer tout d'abord des jalousies dans le peuple. Ensuite, un manque de compassion et de patience chez Gédéon. Ensuite, des sentiments de vengeance personnelle. Et enfin, un orgueil royal en Gédéon. C'est-à-dire tout ce qui ne glorifie pas Dieu, hein. La jalousie, le manque de compassion, les sentiments de vengeance personnelle et l'orgueil, ça, ce n'est pas ce qui glorifie Dieu. Et pourtant, cette victoire va pousser à ça. Voyons ça. Tout d'abord, dans les premiers versets du chapitre 8, versets 1 à 3, immédiatement après la victoire de nuit, les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, mais que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Et ils eurent avec lui une violente querelle. En fait, au lieu de dire, gloire à Dieu, il a délivré par 300, donc c'est impossible de s'en vanter, c'est sûr que Dieu nous a délivrés, merci Seigneur, au lieu de dire ça, ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'ils veulent... Tout le monde veut se vanter de quelque chose. Ils veulent avoir eu part à la victoire. On veut participer à la victoire pour que la gloire nous revienne. Mais parce que si c'est que Dieu qui agit, c'est que si sa grâce agit, là, on ne peut plus se vanter. Mais les Éphraïmites sont troublés par ça. Et d'ailleurs, c'est ce même comportement qu'a dû gérer souvent Jésus et l'apôtre Paul parmi les dirigeants juifs en annonçant le salut par grâce. Et que ce n'est pas notre main qui nous délivre, ce n'est pas notre force morale qui nous délivre, ben ça fait pas mal de fâchés, parce qu'ils disent, mais pourquoi, ça nous laisse où, nous? Nous, on voudrait pouvoir se vanter. Si tu nous dis que les publicains et les prostituées entrent au ciel de la même manière, nous, comment on va pouvoir s'en vanter? Une jalousie. Alors Gédéon arrive à calmer leur colère, verset 2, ben, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que le vendage d'Ébiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian au Reb et Zeb. Qu'ai-je pu donc faire en comparaison de vous ?» Lorsqu'il lui parlait ainsi, leur colère contre lui s'apaisa. Donc en fait, les Éphraïm, c'est eux qui ont chopé les chefs. Alors Gédéon dit, mais c'est vous qui avez mis fin aux chefs, c'est beaucoup plus glorieux comme rôle que moi, ce que j'ai fait dans la nuit. Bravo. La question, c'est que est-ce que c'est par sagesse fraternelle qu'il parle ou est-ce que c'est plutôt flatterie pour les calmer un peu? La suite va montrer que Gédéon n'est pas spécialement bien disposé. Donc, la suite, il continue à pourchasser les hommes et en poursuivant le reste de l'armée madianite, il va tomber sur deux villages, Succoth et Penuel. Et à ces deux villages, il va leur demander de l'aide parce qu'ils sont fatigués, les hommes ont soif et veulent manger. Donc, il va demander de l'aide à ces deux villages. Mais ces deux villages vont lui refuser de l'aide. Les deux villages se disent, oula, la victoire n'est pas garantie, c'est encore 300 contre, bon, c'est beaucoup moins, mais 300 contre 10 000. La victoire n'est pas garantie si on aide le perdant. Eh ben, ça va mal se passer pour nous par la suite. Donc, ils jouent un peu la neutralité suisse. Alors, c'est sûr, ces deux villages, il y a manque de foi, il manque de solidarité fraternelle. Ils auraient dit, ah, nous, gloire à Dieu, il vous a aidé jusqu'à là, nous, on est contents de vous aider aussi. Et enfin, on va pouvoir se débarrasser de ces Madianites, parce que, évidemment, c'est Dieu qui est avec nous, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous croyons aussi en Dieu, donc prenez des vivres, prenez de l'eau, bon courage. Ils auraient pu dire ça, mais non. Non, on ne vous aide pas. Alors, la réponse de Gédéon, c'est ça qui nous intéresse. La réponse de Gédéon montre une réaction charnelle. En verset 7, Gédéon dit, 8-7, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et Tsalmuna, c'est les chefs qui restaient de l'armée, je boirerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » Ça, c'est assez sévère. Bon, j'ai fini ma victoire et je reviens et je vais broyer votre chair avec des épines du désert et avec du charbon. Et il dit la même chose à Penuel, le village suivant. Eux aussi, ils refusent de l'aide. Alors cette fois-ci, il leur dit, eh bien, quand je reviens, je vais renverser le tour de votre village. Verset 9. Il dit aussi aux gens de Penuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Alors pourquoi Gédéon est si énervé? Ah, il a oublié la leçon du premier chapitre. Bah, c'est pas comme ça qu'on traite un vainqueur, comme moi. Je mérite d'être mieux traité. Il oublie que Dieu a été patient avec lui, quand lui, il avait des doutes et des hésitations. Lui, il avait une idole dans son jardin. Il mérite aussi d'être broyé. Il oublie qu'il avait dit, bah, je mérite la mort, j'ai vu Dieu face à face et je vais mourir. Dieu n'est pas mort. Donc vous voyez, quand on oublie que c'est Dieu qui délivre, c'est son œuvre, c'est sa grâce, et bien souvent ça nous rend, nous met dans une mauvaise disposition, des mauvaises attitudes. Nous faisons pareil que Gédéon des fois, quand nous oublions la grâce de Dieu envers nous et puis on manque de patience et de compassion envers d'autres. Alors c'est pour ça que Jésus disait, si vraiment vous donnez toute la gloire à Dieu pour votre salut, pour votre pardon, ben vous allez voir, vous serez prêt à pardonner d'autres assez facilement. Mais si vous refusez de pardonner à d'autres, quelque part, vous pensez mériter le pardon de Dieu et eux non. C'est ça le problème, vous pensez au fond que vous méritez le pardon de Dieu et eux non. Et donc Gédéon ici, il rebascule dans ce danger de la réussite où il pense que c'est lui. Et qui mérite d'être mieux traité. Donc des jalousies, ensuite manque de patience et de compassion. Et d'ailleurs, il le fait, hein, et donc il remporte la victoire, il revient, il les broie d'épines, et puis il renverse la tour. Pas très fraternel. Et enfin, et encore, après ça, il y a des sentiments de vengeance personnelle. Donc verset 18, à 21, chapitre 8, il dit à Zébac et Tsalmuna, ça c'est les chefs médianites qu'il a capturés, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Gédéon dit, « Ah, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébac et Tsalmuna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébac et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leur chameau. En fait, là, on apprend un détail intéressant, c'est que les Madianites, les chefs Madianites, avaient tué les deux frères de Gédéon. Donc, effectivement, un enjeu personnel entre en compte maintenant. Les Madianites avaient tué ses frères. Mais en chapitre 6, Dieu n'avait, on ne parlait pas de ça. Dieu n'a pas dit, bon, venge-toi de tes frères. Non, Dieu voulait que Gédéon délivre tout le peuple de l'emprise madianite. Il n'était jamais question d'agir par vengeance personnelle. Mais ici, dans cette scène, c'est assez moche. Là, il a les deux frères, il a les deux entre ses mains. Donc, il demande à son gamin de les tuer pour les humilier encore plus. Le gamin a peur. Donc eux, ils répondent par des insultes, ces deux chefs. Alors il finit par les tuer lui-même. Vous voyez, toute la scène n'est pas bénie. Dieu est contre la vengeance personnelle. D'ailleurs, dans la suite, ce livre qui prépare la venue du roi David, le roi David, à plusieurs reprises, il fait exprès de montrer qu'il n'agit pas par vengeance personnelle, qu'il n'utilise pas la position royale pour se venger. Et c'est toujours un aspect délicat quand on a la réussite, quand on a la victoire, quand on a une position de force. On peut utiliser cette force pour nos propres affaires, pour la vengeance personnelle, mais c'est pas béni, c'est pas la voie de Dieu, c'est pas ce qui donne gloire à Dieu. Donc là encore, Gédéon, il oublie les leçons du chapitre précédent. Et enfin, donc il y a des jalousies après cette victoire, il y a un manque de compassion, il y a des sentiments de vengeance personnelle, et le chapitre termine avec ce qu'on pourrait appeler un orgueil royal chez Gédéon. En verset 22, ce que nous avons lu, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils. C'est-à-dire, nous voulons un roi, nous voulons une dynastie, domine sur nous, car tu nous as délivré. Tu nous as délivré de la main des Madianites. Et Gédéon leur dit, à son honneur, il dit, je ne dominerai point pour vous. Et mes fils ne domineront point pour vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ça, c'est la grande leçon du livre des juges. C'est Dieu qui doit régner sur nous. Nous sommes le peuple de Dieu, il est notre chef, il est notre roi, il est notre maître, il est notre berger, c'est lui. On veut se confier en lui. Donc, Gédéon le dit de sa bouche, je ne veux pas être votre roi. Mais juste après, il leur fait quand même la demande, mais vous pouvez quand même me donner les 1700 sicles d'or, sans les croissants, les pendants. Donc, vous pouvez quand même me faire un petit don. Alors, j'ai calculé que 20 kilos d'or, en valeur aujourd'hui, c'est 1 200 000 euros. Et puis le verset dit qu'il en fait un éphode. C'est lui qui avait renversé l'idole de son père. Pour rappeler que c'est Dieu seul qui sauve, là, il en refait un. L'éphode appartient au sacrificateur pour consulter Dieu. Donc c'est une manière de prendre leur place, de dire au peuple, au lieu de consulter Dieu, vous pouvez me consulter. C'est une manière de s'attirer la gloire sur lui-même. Un éphode qui vaut 1 200 000 euros. C'est comme si je disais, moi... je suis votre humble pasteur, mais vous pouvez quand même me faire un pupitre qui vaut 1 200 000. Et c'est que pour moi. Hein? Et un piano aussi, si vous voulez. Et c'est que pour moi. Si je commence à me comporter comme ça. Pas bon. Mais j'ai dit, donc, à la fois, il dit, je ne veux pas être votre roi, mais envoyez l'argent. Et puis, ça continue, ce comportement. Un peu orgueilleux. D'ailleurs, quelqu'un dit, rien n'est plus trompeur que les apparences de l'humilité. Il s'agit souvent d'une vantardise cachée. Donc, Gédéon qui dit, je ne veux pas être votre roi, mais à côté, je vais quand même agir tout comme c'est la vantardise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Verset 30 dit qu'il a eu 70 enfants, car il eut plusieurs femmes. 70 fils. C'est beaucoup. Et c'est moi qui vous le dis. Mais pourquoi il fait ça? Parce que c'est la méthode à l'époque, la méthode de prise de pouvoir. Un roi, il multiplie sa progéniture, sa descendance, pour assurer un pouvoir, une dynastie. Donc il venait de dire, je ne veux pas que mon fils, le fils de mon fils, mais il a 70 fils. C'est comme ça qu'il faisait pour prendre le pouvoir et pour empêcher que d'autres dynasties se mettent en place. Donc lui qui sait mieux que tout autre que ce n'est pas le nombre, il va quand même agir par le nombre. Lui qui sait que ce n'est pas par la force militaire, la force politique, la force financière, eh bien, c'est exactement ce qu'il fait pour asseoir son pouvoir. Et enfin, un autre détail pour terminer. Sa, verset 31, sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Abimélec, ça veut dire « mon père est roi ». Je ne sais pas si c'est lui qui l'a nommé ainsi, ou c'est « on », mais il faut le faire. Hein. Comment s'appelle ton fils ? Mon fils s'appelle « mon père est roi ». Alors, c'est une chose de donner à son bébé un body tout mignon qui dit « j'ai les meilleurs parents au monde » ou « j'ai les meilleurs grands-parents au monde », ça, d'accord ? Mais appeler son fils Abimélec « mon père est roi » tout en disant « je ne suis pas roi », eh ben, c'est un problème. Donc, vous voyez, tout ça, selon Dieu, c'est bad. Donc, nous arrivons à la fin de la vie de Gédéon. Et le bilan est mitigé. Le texte nous appelle, nous invite à ne pas oublier tout le bien qu'il a fait. Versets 34 et 35, les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis qui les entouraient, et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait en Israël. Donc oui, on n'oublie pas le bien qu'il avait fait par la foi, notamment chapitres 6 et 7. Et souvent dans les juges, on trouve une dimension de foi qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut imiter cette foi, où ils sont forts dans la faiblesse. Mais il faut aussi se méfier de leurs erreurs et ne pas suivre leurs traces pour tomber dans le piège. Se méfier des dangers de la réussite. Et pour nous, chrétiens, la seule manière de ne pas arriver à cette conclusion que c'est ma main qui me délivre, la seule manière de ne pas se vanter finalement, c'est de se tourner vers Jésus. C'est de se tourner vers la croix. Jésus est le seul maître, le seul sauveur qui empêche de penser « c'est ma main qui me délivre ». Toutes les autres religions vous demandent quand même de participer un peu, beaucoup ou peu. Et donc, vous dites finalement, je vais finir par croire, c'est ma main qui me délivre. Il n'y a que Jésus, comme nous avons chanté ce matin, en Jésus seul. C'est que Jésus qui nous empêche de penser « c'est ma main qui délivre » parce que lui, il a tout fait. À la croix, il a tout fait. Malgré nous, il nous a pris notre faiblesse, pris nos incapacités. Il les reconnaît et puis c'est lui qui a été fort à notre place. La croix est la seule voie qui donne toute la gloire à Dieu. Parce que la croix rappelle notre péché, nos incapacités, et le pardon et la grâce de Dieu. Donc Jésus est le seul qui empêche de penser que c'est ma main qui me délivre. La croix, c'est la seule voie qui donne toute la gloire à Dieu. Est-ce que c'est votre cas? Vous êtes dans le good ou dans le bad? Sentez-vous faible? Eh bien, c'est une force. Et vous pouvez vous confier en Jésus-Christ ce matin. Méfiez-vous des dangers de la réussite? C'est bien de réussir, mais si ça fait oublier Dieu, eh bien, c'est un danger et on peut revenir encore ce matin. Dans la force que donne la foi et la faiblesse. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ces histoires. Elles sont bien détaillées, bien illustrées, mais elles parlent à notre cœur aussi. Nous nous retrouvons dans ces chapitres. Nous voulons reconnaître ce matin notre grand besoin de salut, de notre grand besoin de ta main qui nous délivre. Nous sommes incapables nous-mêmes de nous sauver de la mort, du péché, du mal. Et c'est toi qui le fais. Et nous te remercions que par la foi, nous pouvons vivre de grandes victoires et nous pouvons avancer dans tes voies et nous pouvons te glorifier. Nous voulons te demander pardon pour les fois où nous essayons de tirer la gloire sur nous, où nous oublions que finalement c'est ta main qui agit. Nous te prions de nous rappeler que nous sommes forts lorsque nous sommes en toi et comptant sur toi. Nous sommes véritablement faibles lorsque nous t'oublions. Merci pour notre Église qui peut s'unir autour de ce message de l'Évangile et s'encourager mutuellement à remporter de victoire pour ta gloire. Et nous te prions que nos cultes, nos rencontres, aussi notre vie quotidienne, notre vie au travail, notre vie en famille, puissent toujours te donner toute la gloire. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.